Et même s'il est vrai que, en fréquentant assidûment une assemblée, eh bien nous finissons, et c'est une chose heureuse, n'est-ce pas, de vraiment bien nous connaître les uns les autres. Et nous devenons familiers les uns des autres, et c'est une bonne chose. Mais à chaque fois que nous sommes rassemblés dans ce lieu particulier au nom du Seigneur Jésus, n'oublions jamais cette dimension spirituelle dans laquelle nous nous tenons. Nous sommes sur un lieu qui est sanctifié par la présence même du Seigneur. On ne va pas enlever ses chaussures, comme Dieu l'a demandé à Moïse, mais il est bon toujours de se rappeler que nous sommes, que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, quel que soit le type de réunion, nous pouvons faire l'objet de la part du Seigneur d'un attouchement divin, d'un attouchement de grâce, parce que Dieu, il demeure un Dieu qui est bienveillant. Il est plein de grâce, plein de bonté, et si nous portons notre foi et que nous la fixons sur le Seigneur Jésus, nous pouvons nous attendre à la manifestation de sa grâce. J'aurais bien des témoignages à vous donner dans ce domaine, comme d'ailleurs sur le sujet que nous évoquons depuis hier matin. Mais j'ai fait le choix, parce que cela me semble important, je vous l'expliquais, de rester rigoureusement sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui construit notre foi, une foi saine, une foi qui est sainte, certes, mais une foi saine, c'est-à-dire une foi équilibrée, qui va nous permettre de nous tenir, en tout cas en garde, par rapport à toutes les fausses doctrines, et surtout par rapport à tous ceux qui en sont les propagateurs, à savoir, nous l'avons indiqué déjà, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs et les faux Christ. Puisque nous avons, en tout cas, ces quatre appellations dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la bonne parole du Seigneur dans, ce soir, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. C'est un texte que nous avons déjà vu, mais nous allons aller plus loin. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Vous savez que l'apôtre Paul est en souci, donc lui qui a fondé, par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, car c'est toujours l'Esprit de Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ministère, quel qu'il soit, même si ce ministère peut être en bénédiction, c'est toujours l'action de l'Esprit. C'est Jésus qui bâtit son Église et qui ajoute pierre après pierre, eh bien, une pierre vivante de plus à l'édifice spirituel que forme donc l'Église. Mais là, Paul est en souci parce que, après qu'il soit parti, d'autres sont venus après lui et ils sont identifiés comme des gens qui viennent prêcher un autre évangile, un autre Jésus, qui sont animés d'un autre esprit. Et le drame, en tout cas pour Paul, c'est que ces chrétiens de Corinthe supportent parfaitement cet enseignement qu'ils entendent. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. « Toutefois, de même que le serpent... » Ah, pardon. Voilà, excusez-moi, petite erreur de manipulation. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et Paul, un petit peu plus loin, déclare qui sont ces hommes en réalité, qui se font passer pour des apôtres, des envoyés du Seigneur. Il dit au verset 13, vous lisez avec moi, n'est-ce pas ? « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent, que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, c'est-à-dire, l'Écriture identifie la fin de ces faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, faux Christ, comme étant la ruine éternelle. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose, mais... Attends, je l'ai... parce que là, je l'ai dans la narine. Il ne faudrait pas que... Voilà. Désolé, ce sont les inconvénients du direct, n'est-ce pas? Voilà, bon. Merci beaucoup. Donc, alors, nous avons bien compris pourquoi ces fausses doctrines, elles sont si dangereuses. Pourquoi il faut se tenir en garde de ces faux apôtres, de ces faux docteurs, de ces faux prophètes qui sont là autour de nous. Je vous le disais, en quelques clics sur Internet, et parfois vous faites quelques kilomètres, surtout dans votre belle ville, et vous pouvez être confronté à un faux prophète. Et c'est extrêmement dangereux, parce qu'alors qu'ils prétendent annoncer l'Évangile, alors qu'ils prétendent parler de Jésus, alors qu'ils prétendent être animés du Saint-Esprit, l'apôtre dit « Non, c'est faux, ce sont des menteurs ». Je vous ai expliqué que ce terme « faux apôtres », « faux docteurs », « faux », c'est un terme qui a donné le mot « menteur ». Ce sont des prophètes de mensonges, des enseignants de mensonges. Et les doctrines qu'ils prêchent sont des doctrines, comme le dit Paul dans la première à Timothée au chapitre 4. Lisons-le ce texte, revenons-y. Ce sont des doctrines de démons. Regardez ce qui est dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà de quoi Paul parle aux Corinthiens quand il leur dit « Si vous recevez un autre esprit, voilà, pas en eux-mêmes, mais l'influence à travers les paroles, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Un autre texte va encore plus loin pour nous aider à mieux comprendre la dangerosité de ces funestes et sinistres personnages que sont les faux apôtres et les faux prophètes. Nous le trouvons dans Apocalypse, chapitre 16, verset 13. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous donne une indication supplémentaire. Voilà, c'est ça. « Et je vis sortir de la gueule du dragon, c'est-à-dire du diable, de la gueule de la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et, écoutez bien, et de la bouche du faux prophète, c'est ce personnage qui va venir, donc, et qui va être manifesté dans ce monde après l'enlèvement de l'Église, et qui se tiendra aux côtés de l'Antichrist, voilà, pour accomplir l'œuvre destructrice de Satan le diable à travers l'Antichrist. Et tous ces faux prophètes qui sont là actuellement, ils sont en train de préparer la voie à ce faux prophète qui sera, je dirais, l'étape ultime de l'avancement dans le mal des faux prophètes. Mais regardez, il est dit, je vis donc sortir de la gueule, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce texte-là, évidemment, il annonce ce grand rassemblement ultime, juste avant l'apparition du Seigneur Jésus avec l'Église, quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais on ne va pas développer cela, mais simplement pour attirer votre attention, que nous voyons que de la bouche du faux prophète sortent des esprits de démons. C'est pourquoi, dans 1 Timothée chapitre 4, nous l'avons lu, il est question de doctrine de démons, ces faux prophètes. Pourquoi sont-ils dangereux ? Ils sont dangereux tout simplement parce que sous l'influence de puissances, de ténèbres, ils apportent des enseignements qui sont extrêmement séduisants. Et c'est de cela que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, veut nous garder, veut nous protéger. Pour cela, il nous a donné sa parole et son esprit. Béni soit le Seigneur. Alors, nous continuons. Maintenant, s'agissant des fausses doctrines, regardons la manière dont ces fausses doctrines sont apportées maintenant dans 2 Pierre, s'il vous plaît, la seconde épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront. Ah, voilà, je vérifiais pour voir si... C'est 2 Pierre, seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 1er. Voilà, donc ça, c'est la version seconde. Merci beaucoup. Je voulais préciser, ce que vous avez ici, c'est la version seconde. Voilà. Donc, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je voudrais attirer, voilà, on peut revenir au verset précédent, voilà, votre attention sur ce mot qui introduiront. Parce que si vous avez une version différente de la Bible seconde, ne serait-ce que, par exemple, la version Darby, vous avez ceci, qui introduiront furtivement. Vous avez dans la nouvelle Bible seconde et dans la version à la colombe, qui introduiront insidieusement. Dans la version Chouraki, qui introduiront subrepticement, la Bible Martin parle, qui introduiront ouvertement, et l'ancienne version Osterwald, qui est la version qui existait dans le monde évangélique avant la version seconde, dit pourtant qui introduiront secrètement. Eh bien, tous ces adverbes qui sont là, ils traduisent quelque chose, bon, que n'a pas traduit évidemment le docteur Second, puisqu'il y a seulement le mot « introduiront ». Mais ils traduisent une nuance qu'il y a dans ce verbe pour montrer que l'introduction, eh bien, de ces hérésies, puisque le mot « secte » dans le grec, je vous l'ai expliqué, c'est le mot « hérésie », l'introduction de ces hérésies, elle va se faire avec, comment dirais-je ? Eh bien, je vais reprendre les termes. D'une manière furtive, insidieuse, subrepticement. Vous savez, il y a quelques années en arrière, il y avait une pub, hein, voilà, sur le Canada Dry, je ne sais pas, ceux qui sont de ma génération, voilà. La pub, elle disait, voilà, ça ressemble, ça ressemble à de l'alcool, c'est comme de l'alcool, mais ça n'est pas, voilà. Alors, je ne fais pas de la pub pour Canada Dry, n'est-ce pas ? Mais c'est pour dire qu'on peut entendre un message qui peut ressembler à l'Évangile, mais qui peut comporter à l'intérieur de ce message, dans cette manière de l'apporter, des éléments de séduction. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a toute une finesse. Regardez ce que dit, par exemple, Romains chapitre 16, verset 17. Nous sommes sur le même rapport. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit ceci donc aux Romains. « Je vous exhorte, frères, Romains chapitre 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Parce que voilà le but des faux prophètes, veut dire diviser l'Église, venir séparer, couper, dérober. Le voleur, je le rappelle, disait le Seigneur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et voilà, nous retrouvons exactement la même, si je puis m'exprimer ainsi, la même philosophie, la même pensée, la même intention, divisée. Je vous exhorte donc, dit Paul, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Par des paroles douces et flatteuses. Je l'ai évoqué lorsque nous avons évoqué un des deux mots hébreux qui est traduit par « séduire » ou « erreur » encore dans l'Ancien Testament. Un de ces deux mots, le verbe « pata », signifie notamment « flatter ». La flatterie est vraiment à la base de la séduction. Combien ont été séduits parce qu'on leur a dit un jour qu'ils allaient avoir vraiment une place importante dans le royaume de Dieu, qu'ils étaient appelés à de grandes choses, qu'ils avaient reçu quelque chose de spécial, qu'ils allaient avoir un grand ministère, que Dieu allait les utiliser pour... Mais béni soit le Seigneur, oui, si tel est le cas. Mais vous savez, lorsque le Seigneur appelle, son appel, il n'est pas manifesté de cette manière-là en tout cas. Si je m'en réfère à la parole de Dieu et que je regarde, par exemple, l'appel de l'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus lui dit, on peut le lire d'ailleurs, je crois que c'est, j'ai noté la référence, je pense l'avoir noté. Alors, eh bien non, ah oui, Jean chapitre 21, voilà, Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, on peut lire à partir, verset 18. En vérité, Jésus donc s'adresse à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». C'est tellement différent, ce genre d'appel, n'est-ce pas? Là, il faut vraiment entendre cet appel. Et il faut répondre à cet appel. Vous savez, Jérémie écrit ceci « Je n'ai pas refusé d'être pasteur ». Vous connaissez le ministère de Jérémie ? Il est accompagné de larmes, il a pleuré. C'est lui qui a écrit ce texte. « Mon œil fond en larmes ». Si on regarde l'appel du ministère de Paul, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16. Vous savez, c'est lorsque Ananias est un peu réticent, et on le comprend, il reçoit cette vision de se rendre chez Saul de Tarse parce que, voilà, il faut qu'il prie pour lui. Et il répond au Seigneur, « Mais Seigneur, mais tu n'es pas au courant, Seigneur. Ça veut dire quelque chose, un petit peu comme ça, vous allez voir. Actes des Apôtres, chapitre 9. Voilà. On peut lire à partir du verset 11, verset 10 même. Et le Seigneur lui dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Pardon. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va. » Écoutez bien ce qui est dit. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est quand même différent, n'est-ce pas? On est loin de la flatterie. Le Seigneur appelle cet homme et il lui dit, voilà, tu vas souffrir pour mon nom, mais tu seras un instrument entre mes mains pour présenter mon salut aux grands de ce monde, aux rois, etc. Voilà. Alors, il faut faire attention et prendre en compte ce que dit la parole de Dieu lorsqu'elle nous parle de flatterie. La séduction, elle passe souvent par des paroles douces et flatteuses. Soyons prudents quand on commence à nous caresser un peu trop dans le sens du poil, comme on dit. Vous connaissez l'expression, n'est-ce pas? Voilà. Un mot maintenant sur ce que l'on pourrait appeler l'iniquité des faux prophètes. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 7, verset 23, le Seigneur Jésus, parlant des faux prophètes, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où ils vont paraître devant lui, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, etc.? Et le Seigneur va leur répondre, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On pourrait observer dans ce texte que ces faux prophètes apparaissent comme étonnés. Ils ont vu des œuvres à côté, ils ont vu des miracles, des prodiges, ils ont prophétisé, etc. Et ils sont étonnés de se retrouver devant la réprobation du Seigneur. C'est ça le pire. C'est que quand on est séduit, on n'a pas conscience que l'on est séduit. On n'a pas conscience. On est dans un état. C'est pour ça qu'il est question de la démence du prophète. Il n'est pas devenu fou au point de, je ne sais pas, se rouler par terre, être hors de sens au sens humain des hommes. Mais il a perdu ce que Paul appellera la mauvaise conscience, la bonne conscience, pardon. Et il a fait naufrage par rapport à la foi. Tous ces faux prophètes ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul, on n'a pas le temps de prendre le texte, mais voilà. Donc, en quoi consiste cette iniquité donc, des faux prophètes? Eh bien, d'abord, elle consiste dans le fait que souvent, ce sont de faux disciples. C'est-à-dire, vous savez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a envoyé ses apôtres pour annoncer la bonne nouvelle, et c'est là toute la difficulté encore aujourd'hui, des pasteurs, des serviteurs de Dieu authentiques, ils prêchent l'Évangile, mais le Seigneur n'a pas dit, Voilà, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites des convertis, faites des adhérents, faites des disciples. Faites des disciples. Et ce n'est pas facile. Et vous en savez quelque chose. Entrez dans cette discipline que nous voulons nous appliquer pour obéir au Seigneur, pour faire la joie de celui qui nous a si merveilleusement sauvés. Ce n'est pas facile. Il y a cette lutte intérieure parce que notre vieille nature, elle ne veut pas entrer dans ces choses. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que celui qui va venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Bref, vous avez certainement entendu déjà parler de cette notion de disciple. Eh bien, ces faux prophètes et faux apôtres sont souvent à la base de faux disciples. Vous allez prendre l'exemple, dans la parole de Dieu, de Simon, le magicien. Actes des apôtres, chapitre 8. Vous connaissez cette histoire. On ne va pas tout lire parce qu'il faut que nous avancions, mais vous connaissez l'histoire. Il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Et cette persécution, elle a fait que les disciples se sont éparpillés, ils ont quitté Jérusalem, sauf les apôtres, qui sont restés à Jérusalem. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais les disciples, ils sont partis, sont arrivés jusqu'en Samarie, et ils ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Et puis voici que Philippe, l'évangéliste, a commencé à prêcher le Christ. Des hommes et des femmes se sont convertis dans cette région qui était tenue par un grand magicien, s'appelait Simon, le magicien d'ailleurs, et sa magie était tellement puissante qu'on disait de lui, regardez la confusion qui existe dans le monde encore aujourd'hui, on disait de Simon le magicien, celui-ci possède la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Vous vous rendez compte ? La confusion ! Mais il faisait des prodiges tels que les gens, ils étaient soufflés, littéralement, complètement séduits. Ça fait partie de la séduction, je vous le disais, qui existe dans le monde, cette séduction d'ordre général. Et nous parlons de la séduction spirituelle qui concerne plus spécifiquement l'Église. Ceux qui ont été sauvés et qui sont sous cette menace redoutable. Bon, Philippe l'évangéliste, il a prêché le Christ. Sa parole a été confirmée par le Seigneur Jésus à travers des signes, des prodiges et des miracles. Et un grand nombre se sont tournés vers le Seigneur, à tel point même qu'il nous est dit que Simon lui-même, il a cru. Et il s'est fait baptiser, vous savez, dans ces temps où l'Évangile est annoncé et qu'il y a une telle vague de l'Esprit du Seigneur qui vient toucher, convaincre les cœurs. Les gens viennent, se font baptiser, mais vous faites des baptêmes les uns après les autres par dizaines et par centaines. Et Simon, il est venu et il était dans le lot. Voilà. Parce qu'il s'est rendu compte, certainement qu'il a, il a perçu quelque chose. Il a perçu quelque chose du message de l'Évangile, de la grâce du Sauveur, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il a perçu quelque chose. Et donc, il a commencé à se mettre en route. Sauf que rapidement, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem se sont rendus compte que devant l'ampleur de cette action de l'Esprit de Dieu qui amenait des quantités d'hommes et de femmes au salut, il fallait affermir l'Église. C'est toute jeune église naissante. Et donc, ils sont venus pour que les Samaritains puissent être remplis du Saint-Esprit. Nous aborderons ce sujet probablement aussi demain, parce que c'est un des moyens extraordinaires que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, nous a donné pour résister et surmonter cette vague de séduction qui va aller en s'amplifiant dans des temps qui sont encore à venir. Et donc, Pierre et Jean sont donc venus, et ils ont commencé à imposer les mains, et l'Esprit de Dieu est descendu sur les Samaritains. Et là, c'était extraordinaire, parce qu'ils ont commencé à s'ancrer dans la foi. Ils ont commencé à assimiler la grâce, à vivre dans la foi au Fils de Dieu. Ils ont commencé certainement à se sanctifier, car il nous est dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui marchent dans l'obéissance. Et quand Simon le magicien, il a vu cela, il n'a vu dans ces événements qu'un acte de puissance qui surpassait tous les actes de puissance que lui-même avait pu produire. Quand il a vu la capacité de transformation d'un être humain par la puissance du Saint-Esprit, pensant qu'il ne s'agissait que d'un pouvoir, il a demandé à Pierre, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que, lorsque j'imposerai les mains, eh bien, ceux qui viendront reçoivent le Saint-Esprit. Et regardez, maintenant, c'est ce que nous allons lire. La réponse de l'apôtre Pierre, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Mais c'est verset 20. Voilà, merci beaucoup. Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà, notez bien, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il y avait quatre choses dans le cœur de Simon qui n'avaient pas été encore réglées. Et c'est normal, il était au balbutiement de la foi, il s'éveillait. Mais lorsque nous recevons le message de l'Évangile, eh bien nous mettons les choses en ordre. Et ça s'appelle justement porter le fruit digne de la repentance, c'est ça ? Quand on a dérobé quelque chose, hein, eh bien on a cœur de rendre. J'ai vendu une voiture là, dont je savais que elle était vraiment. J'ai dit, ah, ça c'est une bonne affaire, tu peux y aller vraiment en confiance. Mais quand on se convertit, on fait quoi? Tu sais, bon, écoute, tiens, tu risques d'avoir besoin de ça pour réparer ça et ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Et c'est là qu'on peut leur dire, mais voilà, je suis devenu chrétien. Et quand vous vivez le fruit digne de la repentance, même si vous exprimez mal votre témoignage, il va être accompagné par une grâce particulière, une conviction de l'Esprit de Dieu qui va faire que les gens, même s'ils ne vont pas vous le montrer, ça va les interpeller, voyez. Voilà. Pour en revenir à Simon, sa réponse, elle est dramatique. Ça fait partie des drames. La parole de Dieu, Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Ce qui veut dire que il a pris acte de ce qu'on lui a dit, mais il n'est pas entré, il ne s'est pas repenti. C'est l'histoire de l'Église qui nous apprend ce qu'est devenu Simon, le magicien. En réalité, il est retourné à sa magie. Il s'est opposé aux apôtres et il a développé encore sa magie. Sa magie était tellement impressionnante que l'empereur Claude lui a fait ériger une statue. Cet homme, un petit peu plus tard encore, je parle bien de Simon, le magicien qui est malheureusement resté un magicien. Il est devenu fou. Il s'est pris pour l'incarnation de Dieu sur la terre. Et il a fait un mélange ésotérique, en quelque sorte, entre l'Évangile et ses propres croyances de magicien. Il est devenu, je vous l'ai dit, la séduction. Nous l'avons vu. Elle peut mener à la folie. C'est pour ça que c'est un danger redoutable, mais duquel nous serons gardés si nous restons humblement dans la main du Seigneur. Et si nous recherchons, si nous recherchons simplement à vivre notre vie, une vie dans la simplicité de notre foi, pour avancer, glorifier le Seigneur, porter du fruit, et voilà, pas plus. Et le Seigneur, il va nous amener d'étape en étape à grandir par le seul effet de sa grâce. Il va nous amener à porter du fruit, il va nous amener à être en mesure de pouvoir exercer le discernement des choses spirituelles. Donc, ce sont souvent des faux disciples. Voilà, j'entends un téléphone, j'espère que ce n'est pas le mien. C'est le mien. Bon, je suis navré. Non, il faut j'espère que ça ne dérange personne. Voilà, il faut couper. Voilà. Bon. Vous voyez comme quoi il faut faire attention avec les téléphones. Vous ne m'en voudrez pas, hein. Continuons la lecture de la seconde épître de Pierre, s'il vous plaît. On ne va pas aller beaucoup plus loin, mais quand même pour voir cela. La seconde épître de Pierre, verset 2, pardon, chapitre 2, merci beaucoup. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est toujours question des faux prophètes. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront. Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 24, je le rappelle, plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est puissant, n'est-ce pas, la séduction. Et là, nous avons encore plusieurs les suivront. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, c'est-à-dire des paroles habiles, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous avons encore ici un élément. Sous une apparence d'humilité, les faux prophètes aiment en réalité beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup les honneurs et ils aiment beaucoup le pouvoir. Je vous ai fait observer, même si on n'a pas pu le prendre dans l'Ancien Testament, que souvent les faux prophètes se tiennent auprès des hommes de pouvoir. Balaam se tenait auprès de Balak, Bar Jésus, il se tenait auprès du gouverneur. Et si vous regardez l'Ancien Testament, ben vous avez autour des rois d'Israël et même de Juda des faux prophètes qui étaient là et qui essaient de contrecarrer le message des prophètes authentiques. Ces hommes, ils aiment le pouvoir. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, c'est-à-dire ils vous exploiteront. Vous savez, je me suis rendu compte en allant auprès de nos frères et sœurs au Burkina combien l'évangile, le faux évangile, pardon, de la prospérité a fait des ravages. Dans cette terre, qui est vraiment une terre désolée où des populations courageuses luttent, pas pour vivre, mais pour survivre, travaillent dur. Dans ce pays où il y a une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit qui a sauvé quantité d'hommes et de femmes de la misère spirituelle. Mais voici que des faux prophètes sont venus. Et ils ont commencé à les séduire. Si vous vous tournez vers le Seigneur, eh bien, vous allez voir, le Seigneur, il va vous donner... il est venu pour que vous soyez dans l'abondance. C'est vrai que la version seconde dit, dans Jean chapitre 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais en réalité, dans le texte original, le verbe, c'est pas le verbe « être », c'est le verbe « avoir ». Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça. C'est vrai que nous, ça ne nous gêne pas dans nos pays, on le reçoit et on comprend ce que ça veut dire. C'est une abondance de vie, de grâce, de paix, de joie. Ce sont les richesses spirituelles. En tout premier lieu, nous savons que la foi, c'est plus précieux que l'or, n'est-ce pas ? C'est ce que dit encore une fois l'apôtre Pierre. Nous avons bien compris. Mais dans ces pays où il n'y a aucune sécurité, au niveau social, si ce n'est d'avoir un peu d'argent pour essayer de nourrir sa famille et de prévoir les jours difficiles, les jours où les récoltes sont mauvaises, etc. Combien ont été séduits ? Alors on leur dit, voilà, il faut que vous soyez fidèles dans la dîme et les offrandes. Et c'est vrai. Vous voyez, la séduction, c'est un habile mélange entre la vérité et l'erreur. C'est un habile mélange. C'est vrai qu'il nous faut être fidèles dans la dîme et dans les offrandes, comme dans toutes les autres choses du reste. Dans toutes les autres choses. Alors on leur dit, voilà, il faut donner au Seigneur. Et ces faux prophètes disent, voilà, regardez, ce que vous avez, ce que vous donnez au Seigneur, il va vous le rendre au centuple. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai. C'est écrit dans la parole de Dieu, voilà. Vous aurez des maisons, etc. Ensuite, ces prophètes, ces faux prophètes se prennent pour exemple. Ils disent, regardez, moi au début, je marchais à pied, après j'ai pu avoir un vélo, puis après j'ai pu acheter une voiture, maintenant j'ai une maison, maintenant regardez comment je suis habillé. Et ces bien-aimés, parfois, ne se rendent pas compte que ce sont eux qui ont enrichi ces hommes. Ils ont dépouillé. C'est pour ça qu'ils seront jugés très sévèrement. La parole de Dieu nous dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle. C'est quelque chose de dramatique, tout ça. Ils aiment beaucoup l'argent, je n'ai pas le temps de développer plus. Voilà, ils aiment être considérés un petit peu, d'ailleurs, comme dit au trèfle. Ils aiment être les premiers, voyez ? Ils aiment être les premiers. Je termine avec l'exemple, peut-être, de Jézabel. Vous savez, l'Écriture nous dit au sujet des serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur d'une manière authentique. Ils prennent à cœur ce texte qui dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible, de la gloire. » Voilà ce que dit la parole de Dieu pour les authentiques serviteurs de Dieu. Mais eux, ils dominent. Ces faux prophètes, parfois, ils menacent. Ils menacent de malédiction. Mais vous rendez compte ? Alors que l'Écriture dit « Bénissez et ne maudissez pas !» Bénissez et ne maudissez pas. Alors ces gens sont dans la crainte. Je termine avec Jézabel. Voilà, Jézabel, c'est le nom. On ne sait pas si c'est un nom allégorique, on n'a pas le moyen de le savoir, mais en tout cas, c'est le nom de cette femme qui, dans l'église de Thyatire, a posé problème. À un moment donné, le Seigneur, s'adressant à cette église, dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la... » Apocalypse, chapitre 2, verset 20, pardon. Apocalypse, chapitre 2, verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. » Ça, c'est la grâce du Seigneur. C'est la patience du Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les plus corrompus, les plus pervers. Mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous voyez, il y a toujours Il y a toujours la porte de sortie à travers la repentance. Toujours. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Il est dit, je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. On peut imaginer, bien-aimés frères et sœurs, que cette femme, un jour, elle s'est convertie dans cette église de Thyatire. Voilà, elle est devenue une membre de l'église locale. Et puis, remplie du Saint-Esprit qu'elle a été, elle a commencé peut-être à exercer les dons spirituels. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas comment, elle a été séduite. Et quand on est séduit, on devient séducteur. C'est un mal terrible, la séduction. Et elle, peut-être, a-t-elle cru à ce que lui a dit un faux prophète, qui lui a dit « Tu seras prophétesse des nations ». Voilà. Elle l'a peut-être cru, en tout cas, sa personnalité était telle. Elle a commencé à dire qu'elle était prophétesse, certains l'ont cru. Elle a commencé à influencer. Vous savez, une séduction dans une église, ça commence toujours comme ça. Jésus a dit, ils viennent à vous, les faux prophètes, en vêtements de brebis. Non pas en vêtements de berger, mais en vêtements de brebis. Ça commence souvent, si je puis m'exprimer ainsi, de manière insidieuse par quelqu'un qui est là, peut-être, dans l'église, qui vient, pauvre, par une brebis qui va être séduite et puis en qui va se développer petit à petit la séduction qui va grandir. Cette influence, elle va commencer à s'étendre autour d'elle, voilà. Et puis à tel point que cette femme, elle a même séduit spirituellement le serviteur de Dieu qui était dans cette assemblée. Voilà. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Nous avons la doctrine de Balaam, je n'y reviens pas dessus. C'est grave, parce qu'il lui a été donné du temps, elle n'a pas voulu, et le jugement va venir. Dieu dit, je vais la jeter sur un lit, et le plus grave, je vais frapper de mort ses enfants. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas là des enfants biologiques de cette femme Jézabel. Mais ce sont ses enfants spirituels. Pourquoi ils vont être frappés de mort? Parce que ce ne sont pas des enfants qui sont nés de nouveau, ils ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu, mais ils sont nés de l'esprit de séduction. C'est pour ça que c'est grave, la séduction. Vous comprenez? L'Écriture n'enseigne pas que Dieu fait mourir les enfants pour les péchés des parents. Elle n'enseigne pas cela. Ézéchiel, chapitre 18, n'a pas le temps de le lire, j'espère que c'est enregistré, en tout cas votre pasteur il connaît bien ces choses. Voilà, elle n'enseigne pas cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il s'agit là des enfants spirituels. Et vous savez, ces faux prophètes qui manipulent, qui essaient de manipuler leurs auditoires pour exercer un ascendant, une domination spirituelle. Ils vont vous dire que voilà, si vous n'écoutez pas, eh bien voilà, vous avez besoin de vous repentir, sinon ce sont vos enfants qui vont être frappés à cause de vos péchés. Ça s'appelle les malédictions transgénérationnelles, ou encore, je ne sais plus combien, il y a tellement de noms, vous savez, c'est souvent les mêmes fausses doctrines, mais les noms changent. On essaie de leur donner des noms de plus en plus savants. Voilà. C'est un petit peu comme les sciences occultes, mais il n'y a rien de scientifique dans l'occultisme. Mais on essaie d'habiller cela avec l'habit respectable dans notre société contemporaine. L'habit du scientifique, c'est un habit respectable. Ça l'est beaucoup moins ailleurs. Parce qu'on voit aussi l'homme. Qui est l'homme? Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous parler de l'arrogance, mais vous le lirez. De Pierre, je l'évoque rapidement, allez, une minute, tiens, j'ai fermé ma Bible. Hein. Oh, ils sont audacieux et arrogants, De Pierre chapitre 2, verset 10, la moitié du verset, et tout le verset 11. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Ces faux prophètes, souvent, ils essaient de subjuguer leurs auditoires. Vous savez comment ? En racontant leurs exploits face à la puissance des ténèbres, qu'ils se permettent de moquer, parfois d'injurier. Je l'ai entendu moi-même, peu importe. C'est extrêmement grave, voyez. Vous savez que nous n'avons pas le droit d'injurier les puissances de ténèbres, d'injurier Satan, même s'il est notre ennemi, même s'il est l'adversaire de Dieu. Parce que Satan, c'est une gloire funeste du Seigneur. Avant d'être Satan, il était Lucifer, le porteur de lumière, celui qui était chargé de conduire le cœur des louanges célestes vers le Seigneur. C'était un chérubin. Il appartenait à une certaine classe d'anges. Mais c'était un ange, seulement un ange. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Allez, je la rouvre quand même. Au verset... Excusez-moi. Mais... Je ne fais que rappeler des choses que vous savez, mais que le Seigneur fasse pénétrer cette parole, qu'il la fasse vivre par son esprit dans notre cœur. Et il nous est dit, regardez, malgré cela, il est question, toute l'épître de Jude est consacrée à dénoncer l'œuvre et la séduction des faux prophètes également. Le verset 8 nous dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Écoutez bien ce qui est dit. Or, l'archange Michel, un archange, c'est une principauté d'anges, c'est une autorité parmi les anges. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ce texte, il nous montre à la fois l'humilité de cet archange, qui est une autorité spirituelle bien supérieure au chérubin déchu qu'est Satan, mais malgré le fait qu'il est une autorité supérieure, il ne se permet pas de porter un jugement, parce que cet archange-là, Michel, il sait que le jugement n'appartient qu'à Dieu seul. Mais ces faux prophètes-là, ils se targuent, ils se moquent des démons, des mauvais esprits, ce qui ne fait que renforcer l'influence que ces mauvais esprits ont sur ces personnes, sur ces faux prophètes, sur ces apôtres. Ils sont séduits, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont entraînés de plus en plus comme dans une spirale déjà infernale, dans l'iniquité, dans le péché, dans l'arrogance, dans l'orgueil, qui est la nature profonde de Satan, le diable. Bien-aimés frères et sœurs, si vous entendez quelqu'un fanfaronner, parce que, pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot, en parlant sur les démons, etc., ou en racontant ses exploits, en se prêchant lui-même, tous les voyants doivent s'allumer et nous devons être prudents, attention. Certains sont impressionnés, certains diront « Oh, quel serviteur de Dieu !» Alors ça, oui, voilà un serviteur de Dieu puissant. Oui, et Dieu dira « Voilà un faux prophète !» Voilà un grand séducteur, voilà une grande menace pour la vie des hommes. Prions le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Ô notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as avertis d'avance, c'est vrai Seigneur, et tu nous as donné tous les moyens pour, après nous avoir sauvés, que nous demeurions en toi, saints et saufs jusqu'au bout, persévérant par ta grâce, avec l'assistance de ton esprit. Oh, merci Seigneur de nous avoir donné ces choses précieuses dans ta parole. Fais-les vivre dans notre cœur, s'il te plaît, Seigneur. Accorde-nous de pénétrer davantage ton conseil. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, Ô Seigneur, selon l'Esprit que tu nous as donné, le Saint-Esprit, aide-nous à vivre ton commandement, Seigneur. Aide-nous à marcher simplement et humblement devant toi et devant les hommes, afin que nous ayons ton approbation, que nous puissions être une lumière dans ce monde de ténèbres, que nous puissions briller, ô notre Dieu, non pas pour nous, mais que tu sois vu à travers nous, que ce soit le fruit de ton esprit qui soit porté par nos faibles vies, faibles vases que nous sommes. Oh, merci Seigneur de nous avoir sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.